selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce second épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Déjà, merci beaucoup d'avoir aussi bien relayé le premier épisode, et d'ailleurs que ce soit pour Bola Latina, la FC Corner ou Efrika, donc, vous avez été nombreux à nous donner des retours positifs et vraiment, tout ça fait énormément plaisir. On ne peut donc que vous encourager à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Nous serons, sachez-le, toujours ravis d'échanger avec vous, chères auditrices et chers auditeurs. Second passement de jambes pour Efrika, dans lequel nous allons revenir sur l'imbroglio qui a vu la Guinée tenter de sortir le Soudan sur tapis vert au Tchad 2018, avant de porter ensuite notre attention sur la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Mais avant ça, ouvrons ensemble le courrier Quinfri. Partons en Afrique du Sud, où le super sport a mis à l'essai l'ailier allemand Kevin Schindler, dont le nom a été rayé de la liste des joueurs du FC Cincinnati en USL. L'ancien du Werder aurait pour mission de pallier au départ de Jeremy Brocky, parti au Mamelodi Sundowns ces dernières semaines. Du côté du Mamelodi, justement, c'est le Colombien Leonardo Castro qui fait les frais de l'arrivée du Néo-Zélandais. L'ancien joueur de l'Alianza Lima, formé aux Millonarios de Bogota, a choisi de rester en première Soccer League et rejoint donc les troupes du Kaiser Chiefs. De faire un tour complet du football sudaf, c'est donc ce fameux Mamelodi Sundowns qui domine les débats à l'approche du dernier tiers. Cape Town, Kaiser Chiefs et Free State Stars suivent respectivement à 4, 5 et 6 points. Au regard de la dynamique crescente du leader, rien n'est encore joué. En Tanzanie, le français Pierre Lechantre est le nouvel entraîneur du Simba SC, devenant ainsi le second technicien tricolore à œuvrer en Ligi Kuu Bara après Patrick Lévig en 2013 pour le même fanion. Simba règne d'ailleurs actuellement sur son championnat mais doit partager son trône avec son grand rival du Azam FC. Les deux clubs de Dar es Salaam sont encore invaincus au bout de 14 journées, mais il y a encore un long chemin à faire, Votre Altesse, tu peux me croire. Le Joyau Bleu, ce sera le surnom du stade flambant neuf du Al Hilal Omdurman au Soudan. Une enceinte de 45 000 places dont le club sera propriétaire, une rareté et un confort qui le place désormais sur un pied d'égalité avec son ennemi de toujours, El Merrekh. On attendait l'USC Kita, ce sera en fin de compte l'AS Real de Bamako que le Mali a choisi d'envoyer en Ligue des Champions pour accompagner le stade malien. Ils seront opposés en tour préliminaire aux Nigérians du MFM. En ce qui concerne la Coupe des Confédérations, le choix s'est porté sur le 11 créateur et Djoliba AC qui affronteront respectivement les Algériens du CR Belouizdad et les Libériens d'Elwa United. Des qualifications passées par un entretien fédéral donc et non par le sportif, pareil au cas du Bénin dont nous vous parlions lors de l'épisode précédent avec Pierre-Marie Gosselin. Terminons enfin avec un point sur le Tchad 2018 qui connaît désormais ses quarts de finalistes. Le pays hôte, le Maroc, affrontera la Namibie, le Congo sera opposé à la Libye, la Zambie aura fort à faire avec le Soudan et le Nigeria tentera de ne pas tomber dans le piège angolais. Le tournoi a bien entendu livré son lot d'éliminations surprises puisque sont passés à la trappe la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso ainsi que la Guinée. Cette dernière est passée à côté de sa compétition sur et en dehors du terrain, un cas que nous allons vous expliquer plus en détail. Si vous voulez bien me suivre, c'est par ici. Et pour évoquer cette affaire, c'est Pierre-Marie Gosselin qui me rejoint, qui nous rejoint. Comment vas-tu, Pierre-Marie ?
Bonjour Simon, bonsoir à tous. Ben écoute, ça va très bien. Et toi ?
Ben écoute, moi ça va très bien aussi, hein, ma foi. Tout va bien. Toi, tu n'es pas encore entré à Cotonou, là ?
Non, toujours à Paris. Je suis en train de mesurer la montée de la Seine heure après heure pour pas me retrouver les pieds dans l'eau.
C'est sûr que ça doit être un. C'est plus sec, non, le Bénin?
Un petit peu, ouais. Mais... on peut se retrouver avec des problèmes d'inondation, mais c'est pas pour les mêmes raisons.
C'est tropical ou c'est subsaharien?
Non, c'est tropical, ouais. Quand t'es au niveau de Cotonou, bon, c'est tropical, mais avec la mer, donc c'est un climat quand même assez humide, mais avec beaucoup de vent, donc c'est assez agréable quand tu es à Cotonou.
Très bien, d'accord. Bah, ma foi, écoute, je connais un petit peu les climats tropicaux, mais je crois que nos auditeurs le savent depuis un petit moment que je connais les climats tropicaux. Enfin, bref. On est là pour discuter, pour parler, pour que tu nous expliques le cas de la Guinée. La Guinée de Florentin Pogba, sans Florentin Pogba, puisque la CHAN, on le rappelle, ne concerne que les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux. Donc la Guinée, comme je viens de l'expliquer dans les brèves, qui a été éliminée de cette CHAN 2018, mais elle a été éliminée dans certaines circonstances. Un imbroglio que tu vas nous expliquer.
Eh oui, écoute, ça a été déjà pour mettre un petit peu le contexte, cette Guinée c'était une des favorites au départ de la compétition. Ils ont une équipe qui se base sur un fort contingent de l'équipe du Oroya. Oroya c'est l'équipe qui avait fait la meilleure équipe guinéenne à l'heure actuelle, qui avait fait un très bon parcours en Coupe de la CAF. Ils étaient dans le groupe avec les deux finalistes de Super Sport et du TP Mazembe. Ils se sont fait éliminer à la dernière journée au Golavérage. Donc c'est pour montrer un petit peu la valeur que peut avoir ce groupe guinéen, sachant que leur colonne vertébrale est principalement constituée des joueurs du Oroya comme Ibrahima Sorisankon au milieu, Sekou Kamara en attaque ou Alseni Bangoura en défense. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le cœur de cette affaire, en fait, la Guinée a très mal commencé sa compétition. Ils ont commencé contre le Soudan. Le Soudan, c'est le rival de la poule puisqu'ils étaient aussi avec le Maroc. Et qu'on peut dire que leur joueur à domicile, le Maroc, était quand même peut-être le favori de cette poule-là. Mais entre la Guinée et le Soudan, c'est là que devait se jouer la deuxième place. En tout cas, c'est ce qu'on pensait du côté de la Guinée. Et ça s'est soldé par une défaite de 2-1 qui a sacrément hypothéqué les chances de qualification. Le match suivant, c'était contre le Maroc. Et là, ça a de nouveau été une défaite, 3-1. Mais cette fois-ci, c'était la défaite de trop pour le président Antonio Soaré. Antonio Soaré, qui est le président de la Fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, mais également du club du Oroya. Donc, vous voyez, il est au four et au moulin, comme on dit. Donc, cette défaite contre le Maroc a été fatale pour l'entraîneur, Lapé Bangoura. Lapé Bangoura, c'est un entraîneur local, un Guinéen, un professeur de physique, professeur de géographie, pardon, qui passionné de football, s'est intéressé au coaching et s'est lancé dans le coaching au point de devenir une référence guinéenne et surtout au point de pouvoir succéder à Luis Fernandez quand l'ancien entraîneur du PSG, notamment monsieur le coach à la Choupa Choups, avait fait sombrer cette équipe guinéenne. C'est Lapé Bangoura qui a été appelé en grand secours et qui depuis 2016 au final est à la tête de toutes les sélections locales, aussi bien le Sili qui participe aux qualifications de la CAN, donc cette équipe de locaux qui participe au CHAN. Et donc à la fin de cette défaite, le communiqué est tombé. Nous avons décidé de dissoudre tout le staff technique de toutes les catégories. Il revient à la direction technique nationale de nous faire des propositions sous le contrôle du bureau exécutif de la fédération. Vous l'aurez compris, pour Antonio Soares, c'est la défaite de trop. Lui qui partait avec le rêve peut-être de gagner le trophée, mais au moins de faire de grandes choses avec son pays, a été trop déçu par cette élimination prématurée. Et donc, il a décidé de dissoudre tout le monde. Et au même moment, ils se sont aperçus qu'un joueur soudanais donc qui avait été aligné lors du premier match, semblait être un peu inéligible. Semblait, parce que au final, le joueur a été joué dans le championnat soudanais. Et pour pouvoir participer au CHAN, il faut jouer dans le championnat local. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer en Afrique, ça veut dire qu'il faut jouer dans le championnat local de votre pays. Par exemple, tous les Soudanais doivent jouer au Soudan, tous les Guinéens doivent jouer en Guinée, tous les Ivoiriens doivent jouer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas y avoir un joueur ivoirien qui est dans le championnat du Ghana pour participer au CHAN. Donc voilà, je ne sais pas si...
C'est une histoire locale, nationale.
Exactement. Donc, ce joueur soudanais, El Saman El Saoui El Seke, a signé un contrat avec une équipe de Libye, Alitia Tripoli, mais donc pour la CAF, parce que finalement, le lendemain plutôt, la CAF a rendu sa décision. Et après investigation, la CAF a pu établir qu'aucune erreur administrative n'a été commise par la Fédération soudanaise de football dans l'enregistrement du joueur. Car au moment du coup d'envoi de Soudan-Guinée le 14 janvier 2018 à 14h30, match comptant pour la première journée du matchs en total 2018 dans le groupe A, l'enregistrement du joueur El Samani El Saoui sur le Transfer Management System, le fameux TMS de la FIFA, comme sociétaire de Alita Tripoli, donc le club libyen, n'était pas finalisé et son certificat international de transfert pas encore délivré. Donc pour cette raison-là, la CAF a décidé de donner raison au Soudan et de débouter la Guinée dans sa procédure et dans sa tentative d'essayer de se qualifier un peu administrativement sur tapis vert malgré une élimination cuisante sur le terrain. Une décision qui a été acceptée par la fédération guinéenne et par Antonio Soaré qui a directement répondu: en tant que dirigeant du football africain, je respecte la décision de la Confédération africaine de football. Les articles et les documents sont clairs là-dessus. Donc il restait quand même un match à jouer après ça, un match sans enjeu entre la Guinée et la Mauritanie. Vous imaginez le contexte un petit peu morose avec l'entraîneur qui s'est fait licencier, un petit espoir de qualification administrative qui finalement n'a pas abouti. Et finalement, ils auront réussi à remporter le dernier match contre la Mauritanie. Et Ibrahima Souri Touré Didamas, le coach intérimaire de cette sélection, déclarera après le dernier match que cette victoire, nous la dédions à la paix. Nous avons joué ce match à son nom parce que nous avons eu beaucoup de difficultés après son départ. Les enfants se sont révoltés et n'ont pas voulu jouer ce match, mais nous avons réussi à les canaliser. En fait, si vous voulez, les Guinéens n'ont pas accepté que l'entraîneur soit limogé et ils ont tenté un petit nice nap, quoi, essayer de manifester, de faire grève et de pas se présenter pour le dernier match. Et finalement, ils ont réussi à être ramenés à la raison par leur entraîneur et pour finalement l'emporter et sauver l'honneur des Guinéens. Donc voilà un petit peu pour cette affaire qui a émaillé cette affaire qui a donné un petit peu de piment à ce Chad, même si la compétition se passe très bien sur le terrain, ça a permis de rajouter cette petite épice africaine administrative où on essaye toujours de trouver une petite brèche qui permet de se sauver au dernier moment. Ça n'a pas marché pour cette fois-ci.
Mais d'ailleurs, du coup, est-ce que si le joueur avait été aligné contre le Maroc, comment dire, est-ce que la validation du transfert ne devait pas être effective avant la compétition ou avant le match? C'est-à-dire que je t'en parle là que si c'est fait en cours de compétition, est-ce que ça le sort de la compétition?
Eh ben exactement, c'est ce qui s'est passé en fait. Il a été, du coup, les Soudanais ne l'ont plus aligné à partir du deuxième match. Donc dès que le transfert a été validé, dès que le joueur a signé son contrat, enfin dès que le contrat a été validé par la FIFA et que le joueur est devenu un sociétaire de Alitalia Tripoli, il n'était plus éligible pour ce Chan-là. Et donc les Soudanais ont pris les devants et ne l'ont plus aligné. D'ailleurs, il ne sera plus aligné jusqu'à la fin de la compétition puisque les Soudanais se sont qualifiés pour l'écart. Et ça s'est joué à très peu de choses. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant parce que le communiqué de la CAF qui annonce le résultat de la décision prise par le comité est vraiment marqué à l'heure près. La décision a été, ce coup d'envoi donné le 14 janvier 2018 à 14h30. Donc c'est probablement que ça s'est joué vraiment à des minutes ou à des heures et qu'effectivement le Soudan est passé pas loin de un petit peu de la tuile, quoi, parce que c'est dommage d'anéantir tout pour des détails administratifs qui se jouent à aussi peu.
Ah oui, d'autant plus que le Soudan, c'est pour le Soudan, passer au second tour au quart de finale de ce Chan, c'est quand même une belle performance.
Ouais, c'est bon, on pouvait les attendre quand même parce que le Soudan en termes de football local, ils sont très très bons. Ils sont très puissants au niveau de leur club avec notamment le Al Hilal dont tu as parlé dans les brèves justement et leurs joueurs s'exportent très peu, donc au final leur sélection locale pour le Chan ressemble beaucoup à leur sélection nationale pour la CAN. Donc c'est quand même localement une nation qui était très forte. C'est un groupe très serré parce que ce soit le Maroc, donc la Guinée, le Soudan et même la Mauritanie, parce que la Mauritanie justement qui est entraînée par Corentin Martins, un ancien de la Ligue 1 de Strasbourg et de Bordeaux notamment, était aussi un prétendant sérieux au moins à la qualification pour les quarts de finale.
Très bien, et du coup le championnat va pouvoir redébuter en Guinée.
Ouais, exactement, tout le monde est rentré chez soi, la reprise est prévue pour le 30 janvier. On en est à deux matchs de la fin de la phase aller. Le Oroya est en tête avec 27 points, il est en train d'écraser un petit peu le championnat. Ils ont déjà 7 points d'avance sur le deuxième qui est l'ASFAG et le mythique Afia dont on a parlé dans le livre de Lucarne Opposé. Et enfin le dernier groupe au club Golfe de Guinée, la AS Kaloum, rival, grand rival du Oroya, est 9e avec seulement 11 points. Donc voilà, pour eux, la saison est un petit peu cuite. Et puis sinon, du côté de la sélection, ben, sachez que le poste est à pourvoir. La Guinée cherche un sélectionneur et le profil de celui-ci est la Guinée ne recrutera qu'un entraîneur qui a joué la finale ou remporté la CAN ou un entraîneur qui a fait ses preuves en Coupe du Monde. Donc voilà, ça réduit la liste des prétendants. Il y a de fortes chances que ce soit un étranger. Voilà, on attend de voir. Continuez à suivre les podcasts et Frikia et vous aurez l'information.
Très bien, bah écoute, s'il y a des entraîneurs de cette renommée qui serait ce qui nous donnerait quand même un certain cachet, hein, je t'avoue, qui écoute ce podcast, qui écoute Efrika, eh bien voilà, vous pouvez envoyer votre CV à la Fédération guinéenne de football. Merci beaucoup PM.
Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie et puis à très vite pour de nouvelles aventures.
Ça roule. Ciao ciao.
Ciao.
Partons maintenant, si vous le voulez bien, chers amis, du côté du Maroc, qui a décidé de tenter sa chance à nouveau en officialisant sa candidature pour la Coupe du Monde 2026.
Et pour évoquer cette candidature qui fait peut-être peur à Monsieur Trump et ses amis canadiens et mexicains, qui sait, j'accueille bien entendu Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk ?
Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs du podcast Efrika, bonsoir à tous les lecteurs de Lucarne Opposée. J'en profite pour remercier les auditeurs pour les premiers retours très positifs qu'il y a eu pour le premier podcast. Et nous revoilà prêts à essayer de proposer un contenu d'une qualité équivalente, voire supérieure.
C'est très bien dit, c'est très bien dit. Et aujourd'hui, donc, avec toi, on va s'attaquer à la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Une candidature qui a été présentée dans une conférence de presse ce mardi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette conférence de presse? Déjà, qu'est-ce qui a été dit?
Exactement. La candidature du Maroc a pris une tournure un peu plus concrète en ce début de semaine avec la présentation de la candidature par le président de la Fédération marocaine et les deux ministres de la jeunesse et des sports et de l'industrie. Il y a eu la présentation du logo de la candidature et aussi on a pu voir se dessiner les contours de la stratégie à venir qui est centrée sur le fait que le Maroc présente une candidature fortement soutenue par l'Afrique. Ce soutien à l'Afrique, il est incarné par deux points. L'appel massif du président de la CAF à soutenir le Maroc et que donc les quelques 54 voix africaines puissent peser de leur poids sur le vote final qui aura lieu en juin. Et cette dimension africaine est aussi incarnée à travers les ambassadeurs de la candidature, dont les premiers noms ont filtré ou ont été annoncés mardi en la personne de Samuel Eto'o et Didier Drogba.
Cette stratégie, pas des Mickey, quoi.
Voilà, pas des moindres. Et du coup, l'orientation de la stratégie sur le côté « on représente toute l'Afrique » sera, je pense, la base sur laquelle le Maroc va s'appuyer en insistant sur le fait que l'Afrique n'avait eu qu'une seule Coupe du Monde jusqu'à maintenant et que cette candidature, entre guillemets, est adoubée par tout le continent.
Et le Maroc, il me semble, avait déjà été candidat à l'accueil d'une Coupe du Monde, il me semble, déjà en 2010. Où il avait été.
Exactement, c'est la cinquième candidature du Maroc.
Et en 98 aussi, contre la France, il me semble.
Exactement, c'est la cinquième tentative du Maroc pour accueillir une Coupe du Monde. Et ils ont relevé le défi en allant affronter le triple ogre USA-Mexique-Canada.
Un ogre qui s'effrite pour des raisons bien plus diplomatiques, mais c'est un autre débat. Ma foi, tu me présentais quatre points, un petit peu, quatre points qui font et défont cette candidature marocaine. Le premier, il est assez intéressant et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le côté échange de culture footballistique qui, selon toi, ne demande qu'à arriver au Maroc, peut-être parce que le Maroc et le football nord-africain, la culture du football nord-africain est trop méconnue et qu'elle ne demande qu'à être partagée avec d'autres cultures et elle-même de s'imprégner d'autres, c'est ça ?
Voilà, je pense que le premier point positif que je voudrais soulever, alors que beaucoup de choses ont été dites sur la candidature, c'est essayer d'aborder ça avec un angle un petit peu différent et l'enrichissement sur le plan de l'échange culturel footballistique qui aurait à voir la Coupe du Monde 2026 organisée au Maroc. Je vais me baser sur une expérience tirée de l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde des clubs 2014. Il y avait 7000 supporters argentins qui étaient venus soutenir San Lorenzo à Marrakech pour la demi-finale. Les Argentins en arrivant étaient assez surpris en voyant qu'une bonne partie de la population marocaine soutenait le Real Madrid. Ils étaient assez intrigués, ils connaissaient pas le contexte local et ils se demandaient comment un club étrangers puissent être autant soutenus par les Marocains. Et j'ai assisté moi-même à beaucoup d'échanges entre les fans de foot locaux et les Argentins pour essayer de leur expliquer d'où est-ce que ça venait, que le Maroc se passionnait pour le foot espagnol, qu'il y avait beaucoup de fans du Real et du Barça. Du coup, il leur a étayé les arguments d'où est-ce que ça venait, que le Real était venu jouer des matchs de prestige dans les années 70, que la proximité du pays et que le nord du pays captait toutes les chaînes espagnoles, le fait que beaucoup de Marocains soient allés s'expatrier pour jouer en Ligue 1 dans les années 90. J'ai vu des Marocains essayaient d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas du tout le pays, qui connaissent pas du tout le football de ce pays, essayer de leur expliquer comment est-ce qu'ils voyaient le foot espagnol et leur expliquer pourquoi il y avait autant d'enthousiasme. Et à part cet exemple qui présente un échange de culture footballistique à petite échelle, le continent asiatique et le continent américain dans son ensemble tireraient beaucoup d'enrichissement au niveau des populations qui vont se déplacer, à essayer de connaître la ferveur et comment le football est vécu dans un pays qu'ils ne connaissent pas trop, où il n'y a pas eu beaucoup de flux de supporters ou de touristes tout court qui vont au Maghreb ou en Afrique. Ils pourraient même découvrir d'autres aspects qui sont liés à l'importance du Maroc au niveau africain, que ce soit la façon avec laquelle ils ont bien figuré au CAN, dans les compétitions des clubs, etc., plutôt que aller aux États-Unis, sachant qu'il y a déjà eu une grande compétition déjà organisée très récemment. Donc en fait, il y a eu plusieurs photographies de comment le foot est vécu sur le continent américain. Là, pour le coup, pour une grande partie de la planète foot, ce serait intéressant de voir comment les choses se font dans un pays où ils vont très rarement.
Même si malheureusement pour les décideurs, enfin peut-être pas pour les décideurs, mais remarque si pour les décideurs, l'Afrique se résume souvent à un tout. Je dis bien malheureusement, et ils auront peut-être tendance à considérer que ils ont déjà eu une image du football africain au travers de l'Afrique du Sud, ce qui est absolument absurde puisque c'est à l'opposé du continent et culturellement ça n'a rien à voir avec la culture maghrébine du football et la culture marocaine du football. Sur le même ton, tu peux penser que ces gens-là pensent avoir déjà une vision du football africain au travers des grandes vedettes qu'ils connaissent, Eto'o ou Drogba, Roger Milla pour les plus anciens, etc. Mais en fin de compte, encore une fois, on parle de l'Afrique de l'Ouest subsaharienne et absolument pas du reste de l'Afrique. On la généralise un peu. Donc toi, vraiment, tu penses que... Ça, c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi que l'échange ne peut qu'apporter la connaissance de tout le monde, notamment des Asiatiques et des Américains qui connaissent peut-être beaucoup moins le Maghreb que des Européens, mais je ne sais pas si ce sera un atout pour la candidature.
Non, il faut être conscient que ce point ne rentre pas dans la ligne de compte ni pour le vote, ni pour la manière d'évaluer le dossier, ni quoi que ce soit, mais je voulais en parler parce que ça pouvait être une perspective intéressante. Je repense à un autre exemple qui me vient à l'esprit. Pour beaucoup de supports de sélections qui sont un petit peu chauds et qui adorent suivre leur sélection, ils verraient d'un très bon œil si par exemple ils affrontaient le Maroc, de voir comment la sélection est soutenue à domicile à Casa depuis que l'exil a été terminé. En fait, depuis les qualifs de la Coupe du Monde 2010, le Maroc s'était exilé à Marrakech parce que le public de Casablanca était assez exigeant et que ça pouvait être une pression vraiment importante. Là, on est revenu sur une configuration où si jamais, même dans un futur proche, je pense que ça va durer, d'avoir un stade de Casa avec une population qui avoisine les 80 000, avec les portes fermées 3 heures avant, plus de place nulle part, ni dans les escaliers, etc., avec un bruit, une acoustique formidable, quoi. Et je pense que pour n'importe quel supporter d'une sélection un peu sanguin, quoi, s'il voyait ça, il adorerait, quoi.
Ah, ça, c'est sûr et certain. Alors ça, par contre, évidemment, là, je suis totalement d'accord avec toi. L'échange entre supporters latinos, notamment parce que je les connais bien, et maghrébins ne peut que donner quelque chose de complètement fou et complètement génial. Le deuxième point que tu voulais évoquer sur cette candidature, c'est le fait que le Maroc, donc là pour le coup c'est un atout, hein, c'est un bon point, le Maroc est un pays assez, voire très touristique, et que il a déjà une certaine connaissance, un certain savoir-faire en ce qui concerne l'accueil de population, l'accueil d'étrangers.
Ce point-là, il est un petit peu plus évident et il s'appuie sur des chiffres qui sont de plus en plus positifs au fil des années. Par exemple, pour l'année 2017, le Maroc a accueilli autour des 6 millions de touristes étrangers. Quand je reprends l'exemple des compétitions à petite échelle qu'il y avait eu en 2013 et 2014, tout avait roulé correctement parce que je parle bien des infrastructures sur les capacités d'accueil. Pour les autres infrastructures, on y reviendra un petit peu plus tard, mais là-dessus,
donc on parle bien hôtellerie, voilà.
Exactement, et capacité de rapidité de prise de contact, de réactivité aussi pour assurer la sécurité. Le Maroc à plusieurs endroits voit arriver des flux de touristes continuellement qui. Et je pense que pour un contexte de Coupe du Monde, là-dessus, sur ce point-là en particulier, ce sera très bien rodé. Et je pense que pour 95% des cas, ça va rouler, je pense. Vu les infrastructures qu'il y a, la capacité d'accueil, l'habitude de prendre en charge des touristes étrangers, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire.
Oui, parce qu'on a tendance parfois à se représenter, et notamment au travers de ces représentants que sont des gens comme Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh au travers de spectacles. J'ai ça qui me vient en tête de gens qui parlent de leurs vacances au Maroc. Et on a toujours ces sketchs de Jamel et Gad qui nous rappellent, qui nous donnent une image de l'accueil marocain comme génial, mais comme très bordélique. Toi, tu nous rappelles que voilà, que pour Jamel et Gad, c'est du comique, voilà, il y a le ressort comique, etc., ils l'utilisent comme ça, mais que dans les faits, il y a quelque chose de bien plus professionnel, voilà, ils sont tout à fait à même de le faire.
Je reprends l'exemple en particulier de cette compétition que j'avais couvert à la Coupe du Monde 2014. J'avais discuté avec des supporters, il y avait quelques supporters, les Mexicains de Cruz Azul, Stern Sydney Wanderers, qui avaient dit, oui, on a entendu beaucoup de choses sur la montée de la menace terroriste, toujours la suspicion des Ebola, etc., mais nous, quand on s'est pointé, on a vu que entre la communication qu'il y avait eu sur place, sur il faut faire gaffe, etc., et la réalité des choses, il y avait eu un gap important et que tout s'était bien passé, quoi.
D'accord. Et concernant les infrastructures, les structures, parce que là, donc, on est plus dans l'accueil, dans le savoir-faire humain et dans certaines structures, quand même, tu le rappelles, hein, l'hôtellerie. Mais par contre, en termes de structure, tu es un petit peu plus pessimiste. Peut-être pas pessimiste, mais tu as tendance à penser qu'il y a énormément de travail, plutôt les structures. Des structures concernant donc les transports, les stades.
Alors au niveau du discours qui a été présenté au niveau de la conférence de presse, ce qui est clair, c'est que le Maroc dispose déjà de 6 stades qui, je pense, ne feront l'objet que de très légères modifs pour être aux normes, et d'autres stades qui sont en cours de construction, notamment le grand stade de Tétouan et le stade à Oujda. Le Maroc a dit qu'il serait prêt à être dans les temps pour que tous les stades soient prêts et la possibilité aussi qu'il y ait des stades modulables qui soient autour des 45-50 000 au moment de la compète et qui reviendraient à une échelle un peu plus raisonnable après la compétition. Mais ce qui je pense pose question aussi, c'est les infrastructures qui entourent les stades. Et je pense en particulier à deux points qui sont liés au transport. Je reprends pareil, c'est mon référentiel de base, la Coupe du Monde des clubs 2014. Il y a beaucoup d'Argentins qui s'étaient déplacés en indépendant. En indépendant, c'est-à-dire qu'ils ont juste le billet pour le stade et pour le transport, ils se débrouillent. Alors que tous ceux qui avaient le voyage tout frais compris, il y a un bus spécial qui les emmène du stade de leur hôtel jusqu'au stade. Les indépendants sur place ont constaté d'une part que le grand stade de Marrakech était à une quinzaine de kilomètres du centre-ville et qu'il n'y avait pas de transport public pour y aller. Il y avait, hormis un petit bus régional qui passait une fois par heure et qui était connu que des locaux, et encore il passait vraiment loin du stade, ben il n'y avait pas à ce moment-là de bus pour pouvoir transporter tous les supporters. On s'est retrouvé avec pas loin de 3-4 000 Argentins qui soit louaient des bus touristiques à l'arrache pour essayer d'aller au stade le jour du match, soit qui payaient bonbons à cause des taxis, et encore les taxis ne pouvaient pas les emmener jusqu'au stade, ou ils se farcissaient les 12-15 bornes à pied pour y aller et pour revenir. Ce problème-là, qui s'était présenté en 2014. Certes, même si les infrastructures se développent et le Maroc mise beaucoup sur la perspective d'avoir la Coupe du Monde pour accélérer le développement de tout le réseau qui entoure les stades, il se peut que ce problème se représente, même si là c'était contextuel et un exemple précis. S'il y a d'autres stades qui sont un petit peu loin et que les transports n'ont pas été vraiment mis à une échelle conforme à la construction du stade, ça peut entraîner des problèmes. Mais en tout cas, pour cette compète-là en particulier, je repense à l'exemple où ça avait été quand même pas évident, quoi.
Donc, selon toi, il y a des lacunes, mais on part de loin, vraiment très loin, on est dans l'état que tu as décrit et tu penses que le pays est totalement capable, en tout cas, on va d'abord parler des moyens et la culture d'en être capable de s'organiser et de rénover ou construire ces structures ou infrastructures pour 2026.
L'accélération dans le développement des infrastructures est possible, mais voilà, il y a des points qui posent question, qui, je pense, l'accélération devra être vraiment importante pour répondre à un besoin qui sera des placement de flux de supporters assez conséquent. Donc il faudra, je pense que le Maroc va attirer le son de cette problématique. Aussi pour le transport, quand le match du Real Madrid a dû être délocalisé de Rabat à Marrakech parce que le stade de Rabat était indisponible. Aussi ça avait été un petit peu chaotique parce que il a fallu en toute vitesse aller se déplacer quelques centaines de bornes pour aller à l'autre stade voir le match. Ça a entraîné aussi des flux qui étaient un petit peu chaotiques. Mais cet exemple prouve que si au niveau des stades, je pense qu'il y a possibilité d'arriver au quota qui est voulu par la FIFA, il faut que les infrastructures autour se développent vite aussi.
D'accord. Bah, tout ça nécessite des sous, nécessite un budget, on le sait, et généralement c'est le point négatif, en tout cas en ce qui concerne le point de vue des populations qui accueillent des événements comme les Coupes du Monde, les JO ou voilà d'autres événements sportifs majeurs. Les budgets sont énormes pour se mettre à jour au niveau des infrastructures. Il est comment le budget du Maroc? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir le budget qui conséquent pour réaliser ça?
Alors, je dirais que la mise à niveau des infrastructures, la construction des stades, c'est une chose. Ça, par exemple, pour les stades de Tétouan et d'Oujda, ça a déjà été budgétisé. Et de toute façon, les stades seront réutilisés après. Ils ont posé le budget en disant celui-là coûtera autour des 60-70 millions d'euros, l'autre 75-85 millions d'euros. Ça, c'est connu. Ça, c'est des dépenses qui sont connues. Sauf que dans l'organisation d'une compétition, il peut y avoir beaucoup d'impondérables qui font vite monter la note. Et là encore, je pense que les auditeurs du podcast vont penser que j'insiste avec cet exemple, mais comme j'avais couvert la compète, j'y tiens beaucoup. Les Coupes du Monde des clubs 2013 et 2014 organisées par le Maroc. La facture financière, au final, a été 7 fois supérieure à ce qui était attendu. Il était attendu que les dépenses soient autour des 16 millions de dirhams. En définitive, suite à différents facteurs, donc il y a eu le manque à gagner à cause du stade de Rabat qui était inutilisable à cause de l'inondation, donc les frais de délocalisation ont été importants, entre les gens qui ont annulé leur billet, entre les gens qui ont voulu se le faire rembourser, tous les frais supplémentaires qu'il y a eu pour transporter toutes les infrastructures à Marrakech pour faire le match. Il y a eu les invendus de billets, plusieurs surcoûts de ce type-là qui ont fait que sur les deux éditions 2013 et 2014, la facture a coûté 554 millions de dirhams, soit autour des, si je dis pas de bêtises dans la conversion, autour des 50 millions d'euros. Alors que à la base, les coûts de la compétition au départ étaient 7 fois moins. Là, on parle d'une compétition à petite échelle où il y avait une dizaine de matchs. Alors que pour la Coupe du Monde 2026, il y aura 48 équipes. Si je dis pas de bêtises, on sera autour d'une soixantaine de matchs dans différents sites. Certes, l'exemple de la pluie qui a complètement immergé le stade de Rabat, c'était un impondérable. Mais ce type d'impondérable peut aussi arriver, même si la compète est organisée, peu importe où, en été, etc.
En Ukraine.
Il peut y avoir des problèmes.
Ukraine-Pologne 2012, il me semble que c'est le stade de Donetsk, un France-Suède, ou France-Suède, oui, je crois que c'est France, ou France-Ukraine, je ne sais plus. Match de poule où le match avait été arrêté. Il a été joué le lendemain d'ailleurs, il avait été arrêté.
Et il y avait eu un petit décalage parce que le terrain s'était transformé en piscine.
Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en effet, c'est des impondérables qui peuvent arriver ailleurs qu'au Maroc.
Mais du coup, il peut y avoir tellement de sources de surcoûts, que ce soit si on n'arrive pas à vendre les billets, que ce soit il y avait eu justement des distributions de billets gratuits parce qu'on n'arrivait pas à remplir le stade pour un match. il peut y avoir des problèmes de délocalisation et ça peut vite faire monter la note. Alors si pour des petites compétitions comme ça, le coût qui a ensuite été supporté par les sponsors et un petit peu par les fonds publics, bah si le coût est autour des 7-8 fois supérieur à ce qui est attendu, alors pour une Coupe du Monde de la FIFA, sachant que la FIFA avec le transport des VIP plus tous les partenaires, etc., ça va vite chiffrer, ça peut poser des problèmes de budget après qui seront astronomiques.
Mais parce que moi, évidemment, j'ai l'exemple brésilien sous les yeux. Et je sais que voilà que la Coupe du Monde déjà a fait des dégâts dans le budget, dans les budgets des villes et des États, et que même par exemple à Rio, un très bel exemple, c'est Rio, Rio de Janeiro évidemment, où la combinaison accueil Coupe du Monde plus JO 2016 a tout simplement ruiné la ville et l'État de Rio, ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation où l'État, les administrations, l'État et la municipalité sont en cessation de paiement et les fonctionnaires publics n'étant plus payés, la police ne travaille plus correctement, les pompiers non plus, la violence augmente à une vitesse incroyable, enfin c'est la catastrophe et tout cela était en fin de compte peut-être prévisible en connaissant l'état de la structure financière brésilienne, pas l'état de santé de la structure financière, mais l'état en termes d'organisation, la structure financière brésilienne, publique notamment, et surtout en connaissant le niveau de corruption. Après, tu vas me dire, c'est ceux qui allaient se servir qui ont évidemment fait le dossier pour pouvoir se servir. Mais est-ce que, de ce point de vue-là, en termes d'organisation financière, en termes évidemment de corruption, la candidature marocaine est viable ?
En fait, le Maroc, je pense, va aussi tirer leçon de ce qui s'était passé en 2014. Parce que quand on analyse le budget de départ qui avait été défini, il y avait eu beaucoup d'impondérables qui n'avaient pas été pris en compte. C'est-à-dire le fait que la billetterie peut-être rapporte moins que prévu, la gestion d'un problème tel qu'il y a eu pour la délocalisation de Rabat à Marrakech. Ce qui fait que je pense que là, rien que sur l'approche de l'estimation de combien ça va coûter, je pense que ça va être revu autrement. Parce que sinon, s'il y a un surcoût conséquent comme il y avait eu en 2014 et que c'est soit les fonds publics soit les sponsors qui passent à la caisse pour compenser ce déficit là, ça peut vite être problématique. Il y avait eu une enquête très intéressante du média marocain Les Échos qui avait sorti justement ces chiffres là, qu'au départ le budget devait être autour des 16 millions de dirhams pour les deux éditions. Au final, la facture financière a été multipliée par 7 et ça avait vraiment été dommageable au niveau du bilan financier, quoi.
D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce que les résultats des Lions d'Atlas sur ces dernières années dans les compétitions internationales, etc., on auront une influence sur la candidature ?
La dynamique actuelle est bonne. Après plusieurs années, la crise de résultats, on pensait qu'elle allait pas se terminer. En fait, depuis la finale du Maroc à la CAN 2004, les résultats n'ont pas cessé de décliner. Après les expériences vraiment malheureuses dans les CAN au début des années 2010, il y a eu comme une forme de désamour du public vis-à-vis de la sélection. Il y avait eu d'ailleurs justement l'exil du stade Mohamed V de Casablanca et la sélection marocaine qui voulait éviter un peu la pression négative était allée jouer ailleurs, à Marrakech. Et cette dynamique-là était vraiment pas bonne. Et l'arrivée d'Hervé Renard a vraiment changé beaucoup de choses parce que d'une part, sa restructuration après la première CAN 2017 qui a été honorable où le Maroc sort avec les honneurs en quart de finale avait réinstauré quand même une espèce d'enthousiasme qui s'est prolongé durant les qualifications au mondial. Et ça a été un peu vécu comme une résurrection. Enfin, même si les Marocains adorent leur sélection et que ça fait plusieurs années qu'à cause des résultats négatifs, soit ils seraient intéressés un petit peu à leur club, soit il y avait une frange non négligeable qui s'intéressait beaucoup aussi à l'équipe à prime, les locaux, soit au football européen. Et là, les résultats très positifs qu'il y a depuis un an ont réinsufflé une belle dynamique. Après, est-ce que ça aura une influence à côté ? Certainement pas, parce que je pense que c'est des choses qui sont dissociées. Mais au moins, les Marocains ont repris goût à suivre leur sélection. Et je pense que en marge du parcours des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde où il y a quand même pas un optimisme mais quand même un enthousiasme de voir l'équipe se mesurer à des gros bras comme l'Espagne et le Portugal, le résultat de la candidature la veille rajoutera un peu d'excitation au moment d'aborder la compétition.
Oui, donc si c'est pas forcément le bilan sportif de la sélection qui pourrait être un bon point pour le Maroc, pour la candidature du Maroc, ce serait plutôt ce retour de l'engouement autour de la sélection qui pourrait l'être.
Oui, c'est présenter une dynamique qui s'est inversée et qui repart vers le haut. Ça, je pense que ça intervient à un moment qui est favorable.
D'accord. Eh ben, écoute, très bien. Merci beaucoup, Farouk. Voilà, on a un super, on a nous-mêmes un super dossier à présenter pour le dossier de la candidature. Voilà, on fait des dossiers, tout le monde fait des dossiers. Et on va espérer que on reste neutre. Hein, on sera très content pour les Américains, les Mexicains et les Canadiens, c'est long. Même si tu as raison, les Américains ils ont déjà eu, les Mexicains ils ont déjà eu deux fois. Les Canadiens d'abord, ils préfèrent le hockey sur glace. Alors le Maroc il le mérite plus.
Pour ma part, je revendique sans aucune honte ma non-neutralité sur ce dossier. C'est vrai que je souhaiterais beaucoup que le Maroc l'ait, mais la manière qu'ils ont d'aborder le vote est, je pense, réaliste, parce que d'une part, ils se sont entourés d'une agence qui a participé à la préparation de la candidature française au JO 2024. Ils ont l'appui, en plus des ambassadeurs renommés tels que Eto'o et Drogba, de l'ancien secrétaire général de la CAF. Et surtout, ils misent beaucoup sur cette modification du mode de scrutin où, en plus, fort des 50 voix africaines, ou à peu près 50 voix africaines favorables, le lobbying à côté va être intensif pour grignoter du terrain sur les voix éventuelles que peut ramasser d'office l'autre candidature.
Moi je reste neutre. Et puis de toute façon, il y a ce fameux roulement. Normalement, c'est au tour de l'Afrique d'avoir une coupe. Merci beaucoup, Farouk.
Merci beaucoup, Simon.
À la prochaine.
À la prochaine.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cette seconde émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikas. Salut les amis !